Bonjour à toutes et à tous. On refait un test. Est-ce que vous m'entendez? Même le dernier rang? Le premier aussi? Super. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager avec vous cette journée de récollection. Je remercie les responsables de la pastorale de la santé de m'avoir invité. Et nous espérons, enfin j'espère vivre avec vous quelque chose qui soit de l'ordre du ressourcement. Il y a, je crois, des ressources qui sont toujours bonnes à explorer et à exploiter. Et ces ressources nous viennent de l'Évangile. L'Évangile, je l'entends d'abord comme une qualité de parole. Moins d'abord les textes fondateurs du christianisme, ce que nous appelons les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'une manière de parler, de s'adresser aux autres, d'être dans la rencontre de l'autre, qui sera le thème et le fil conducteur de nos réflexions et du ressourcement d'aujourd'hui. Quand Jésus commence à ouvrir la bouche, c'est pour leur dire que quelque chose est en train d'arriver, quelque chose de neuf, quelque chose d'inouï, qu'il appelle le royaume de Dieu, et qui engage un renouvellement, une sorte de nouvelle naissance, d'engendrement. Il y a des possibles qui s'offrent, et Jésus, quand il parle, parle de telle manière que tout le monde entend comme un encouragement à exister, comme si se ressuscitait dans les personnes qui entendent l'Évangile quelque chose d'une espérance. Et Dieu sait que nous avons besoin de réentendre quelque chose de cette espérance. Vous savez que le mot Évangile, nous savons qu'il signifie « bonne nouvelle ». Le mot « angelon » veut dire « annoncer ». Et le préfixe qu'on a mis devant, « eu », « ev », « angile », en grec, on l'appelle un préfixe « euphorique ». C'est-à-dire un préfixe qui donne moins l'euphorie de l'excitation que ce courage d'exister. Et donc « est évangile », toute parole et toute attitude qui, pour soi-même et pour l'autre, le relève dans son courage d'exister. Et je crois que c'est déjà un maître mot qui va rejoindre, je l'espère, ce que vous vivez comme visiteur ou visiteuse de malade. Comment communiquer ce courage d'exister? Parce que nous avons besoin de ce courage. Tous les matins, nous faisons l'expérience de ressusciter plus ou moins ce courage d'exister. Et vous savez que l'opération la plus difficile d'une journée est bien souvent de se lever. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les évangélistes, quand ils ont voulu dire ce qui est arrivé à Jésus dans le tombeau, aient utilisé la métaphore tout à fait concrète, tout à fait quotidienne, tout à fait banale de se réveiller ou de se lever. Nous, on a inventé un mot qui est le mot « ressuscité » ou « résurrection ». Mais vous savez que ce mot est un mot technique, un mot jargonnant, alors que c'est tout simplement se lever, être mis debout. Et nous verrons plus tard que le récit même de la visitation que nous fêtons aujourd'hui, c'est Marie qui se lève, et c'est le même mot que les évangélistes disent pour dire que Jésus a été relevé de la mort. Le matin, il y a des jours où on a plutôt envie de rester dans son lit. Il y a des jours où c'est dur de se lever pour affronter ce qui arrive, ne fût-ce que la somme des devoirs qu'on doit faire. Et même quand on est retraité, il y a aussi la pression du temps, l'accélération du temps. Et puis on ne sait pas ce que la journée va offrir. Et on ne sait pas quel réel on va devoir affronter. Quelles épreuves, quels malheurs parfois. Se lever, ressusciter son courage d'exister. C'est ça que communique l'Évangile. J'insiste là-dessus, parce qu'il en est de la plus haute importance, y compris pour la mission que vous remplissez auprès des malades. L'Évangile n'est pas d'abord la communication d'un savoir religieux que les gens ignorent ou ignoreraient. En ce sens, évangéliser ne signifie pas communiquer des croyances religieuses. Évangéliser signifie communiquer un courage d'exister. Certes, on peut aussi, avec l'Évangile, entretenir et nourrir ses besoins religieux. Mais l'Évangile ne fait pas que ça. Et je pense même de plus en plus qu'il le fait beaucoup moins que nous ne le croyons. L'Évangile, ce n'est pas d'abord un langage religieux, à tel point d'ailleurs que Jésus ne parlait pas religieusement. Sa manière de parler était, vous le savez, nourrie de paraboles, et les paraboles ne sont pas des discours religieux. La preuve, c'est que quand Jésus parle en paraboles, il ne dit pas et n'emploie pas le nom de Dieu, il ne parle pas des choses de la vie du paradis, il ne parle pas de ce que nous appellerions les croyances du catéchisme. Jésus, quand il parle aux gens, parle d'un semeur qui sème, d'une graine qui est plantée, toute chose qui évoque, pour les gens agriculteurs de l'époque, de son époque, quelque chose qui les rejoint dans leur quotidien. Mais en même temps, il y a dans les paraboles comme un dépassement, une surenchère, une sorte de mise en rapport de la vie de tous les jours avec quelque chose d'aussi inouï, d'aussi surprenant qu'est le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus essayait de déboucher les oreilles et de dessiller les yeux de ses contemporains pour qu'ils puissent enfin voir ce royaume de Dieu déjà présent. Au même titre que chacune et chacun, vous êtes invités en présence du malade ou de sa famille ou des gens que vous rencontrez, vous êtes déjà invités à reconnaître que dans la vie de la personne que vous rencontrez, il y a quelque chose de la manifestation du royaume de Dieu. Je reviendrai sur ce point plus tard parce qu'il me semble aussi important. Si je reviens sur la qualité de parole, de présence, d'attitude, c'est tout notre être qui est évangélisé pour être communicatif de ce courage d'exister. Et je vais même donner à ce courage d'exister, à cette communication, je vais lui donner une note supplémentaire qui est très très en accord avec ce que nous apprend aujourd'hui la visitation et le récit que nous travaillerons tout à l'heure. Il y a dans la communication du courage d'exister la communication de la jovialité. C'est un beau mot, un peu oublié, que les anciens considéraient comme une vertu, c'est-à-dire quelque chose qui devrait devenir un peu notre habitus, comme on dit, c'est-à-dire notre manière d'être courante. Une habitude, mais dans le bon sens du terme, pas les habitudes qu'on tient parce qu'on doit les tenir, mais une manière d'être permanente, la jovialité, à avoir bien sûr avec la joie. On reviendra sur le thème de la joie. L'Évangile, c'est la joie, pas le bonheur. Je dirai tout à l'heure pourquoi il est très très important, comme chrétien, de savoir distinguer un discours sur le bonheur d'un discours sur la joie. Et ça a une répercussion, mais énorme, parce que vous vous trouvez en présence de personnes, mais vous-même aussi, qui souffrent. Est-ce que vous pouvez leur dire « Sois heureux » ou « Il suffit que » ou « Tu n'as qu'à » ? On ne peut pas parler de bonheur à quelqu'un qui vit quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance ou du malheur. Mais on peut toujours lui communiquer la joie. J'y reviendrai là-dessus. Mais disons maintenant, anticipativement, que cette communication du courage d'exister, c'est en même temps cette communication de jovialité. Donc la jovialité, c'est rendre l'autre content. Ou en tout cas, c'est disposer dans la rencontre de l'autre quelque chose qui, redonnant un peu de souffle, un petit peu de ce courage d'exister, fait qu'il y a subitement un petit relâchement de la tension et des pressions, il y a quelque chose d'une respiration, il y a un souffle et un peu de légèreté. La jovialité, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas faire le comique nécessairement, ce n'est pas faire le clown Encore que je crois qu'il y a des hôpitaux où il y a des artistes, des clowns qui viennent égayer les personnes, et c'est un beau service aussi. Je ne dis pas non plus que les chrétiens doivent être de ces gens un peu bénés, un peu naïfs, qui descendent tout droit du monde des bisounours, qui est notre tentation pastorale sur laquelle on ne fait pas nécessairement attention, et qui fait croire que le chrétien, le visiteur ou la visiteuse de malade doit s'afficher un sourire accroché aux oreilles, parce que il faut être, entre guillemets, dans cette disposition toujours de bonheur, où il faut être heureux. Je reviendrai beaucoup sur le fait que le visiteur ou la visiteuse de malade, ce n'est pas le bien portant qui rencontre celui ou celle qui va mal. Le visiteur et la visiteuse de malade est lui-même ou elle-même malade. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas malade. Eh bien, je vous montrerai tout à l'heure que nous le sommes tous exactement au même endroit, et que c'est dans la grâce de la visite, où le visiteur n'est pas simplement celui qui vient de son trop-plein de bonne santé, déversé par altruisme ses réserves et ses capacités d'amour. Ce n'est pas ça, visiter l'autre. C'est visiter l'autre pour que l'autre nous mette exactement au même endroit que lui, c'est-à-dire le lieu où l'on sent qu'il manque quelque chose à notre vie, qu'il manque quelque chose en nous pour faire la vérité, et que le malade, finalement, nous le rencontrons parce que lui-même atteste que nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin d'être justifiés, nous avons besoin d'être graciés, nous avons besoin, je le dirais théologiquement aussi rapidement que ça, nous avons besoin d'être sauvés. Et c'est bien parce que nous n'avons finalement pas grand-chose à apporter aux malades que nous rencontrons, que nous avons juste donc ce petit élan de courage d'exister et de jovialité. Et chacun trouvera ici sa manière propre d'être jovial. Mais n'empêche que je trouve que c'est intéressant que chacune et chacun, et c'est une journée qui est faite pour ça, se pose la question de savoir quel est son rapport à la jovialité. Est-ce que vous vous trouvez jovial ? Est-ce que cette jovialité, cet art, cette manière de rendre content l'autre, est-ce que c'est une manière dans laquelle vous vous sentez un peu dilaté, un peu épanoui ? Nous sommes en plus dans un air du temps qui est morose, qui est gémissant, plaintif, et avec une dose d'agressivité qui apparaît un peu partout. Une agressivité latente que l'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, mais que l'on sent lors d'une file dans un magasin, où l'impatience fait que dans un monde où tout s'accélère, où la vitesse va de plus en plus vite, on est impatient pour tout. Si vous avez l'emploi d'un ordinateur, s'il y a le moindre ralentissement du débit internet ou de votre wifi, même si vous perdez là une seconde, c'est une seconde de trop. Les embouteillages, donc je dis bien les files dans les magasins, tout ça crée un sentiment d'impatience, une manière aussi de chercher toujours des coupables dans une société qui se veut de moins en moins responsable. Et c'est toujours de la faute des autres. Et puis pour bientôt, ça va être même, quand il fait beau, il y en a un qui se plaignent. Quand il pleut, on se plaint. On prend des vacances, maintenant, quasiment, avec la garantie soleil, comme si on achetait auprès de son agence de voyage, la garantie, il fera beau. Et puis on se plaint et on écrit sur les sites, « Ah mais, il faisait pas beau en Grèce alors qu'il aurait dû. » Cette société plaintive est une société qui est en train donc de disloquer le lien social qui ne peut exister que parce que être ensemble, fonctionner, vivre ensemble, que ce soit dans un noyau familial, amical, que ce soit paroissial, que ce soit une pastorale, c'est la jovialité qui est l'ingrédient. Enlever la jovialité d'une chorale paroissiale, eh ben vous avez jalousie, critique, ressentiment dans l'Église. Pour ensemble être l'Église, la jovialité est absolument nécessaire, et c'est ce que Marie et Élisabeth se partagent et se communiquent dans cette fête de la Visitation. Ma montre, je la cache, mais je demanderai à Marie de me dire quand je dois me taire. Je vous disais donc que l'Évangile est moins un message qu'une manière d'être messager. C'est moins apporter des contenus que d'être soi-même l'incarnation de l'Évangile. Une sorte d'évangile vivant et d'évangile vécu. Dans la grâce de la rencontre de l'autre, être l'évangile aussi pour l'autre. Voilà le sommet, le cœur, non pas seulement de la mission que vous avez, mais du chrétien, de la chrétienne que vous êtes, et peut-être même tout simplement de l'être humain. Et je vous dirai dans un premier temps, après ce préambule un peu long, mais qui vous a déjà, entre guillemets, dirigé vers quelques fils et quelques thématiques que nous aurons à reprendre d'une manière ou d'une autre, je voudrais rappeler que tout simplement et humainement, nous avons besoin de la rencontre pour devenir nous-mêmes, pour être soi-même. Nous avons besoin de la rencontre, nous avons besoin de passer par la rencontre de l'autre pour être soi. Sans cette rencontre, sans la grâce de la visite, nous ne serions jamais que notre moi-je, notre ego. Cette distinction, je vais essayer de vous la rendre, je l'espère, le plus simplement possible, mais elle n'est pas évidente à entendre au premier égard. Je suis en train de distinguer devant vous, mais c'est pour nous faire réfléchir, entre le moi que chacun croit être et le soi que chacun n'est pas encore devenu, en tout cas pas encore pleinement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a en vous une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, une sorte de séparation complète entre deux personnalités. Je dis que il y a un moi qui se construit comme une identité ou comme plusieurs identités, et ces identités nous viennent par identification. Rassurez-vous si vous dites ouïouïouï, voilà le philosophe qui cause. J'ai ce problème d'avoir fait un peu de philosophie et d'avoir trouvé ça plaisant. Et plus encore, de trouver assez significatif qu'on passe parfois par quelques réflexions de cet ordre-là pour mieux apprendre à connaître quelque chose de soi, de la vie, du rapport à l'autre. Le moi, c'est quoi ? Ce sont les identités sociales, familiales, professionnelles, religieuses qui nous sont davantage donnés d'ailleurs que nous ne les fabriquons nous-mêmes. Il va de soi que si je deviens un petit peu biographique, et vous m'excuserez, si je m'appelle Dominique Collin, voilà qui identifie mon moi à Dominique Collin. Collin, c'est mon patronyme, il ne vient pas de moi, et mon prénom non plus. Cette identité par identification dit quelque chose de qui je suis, parce que si vous m'appelez Prosper Youplaboum, je ne me reconnaîtrai pas. Mais quand on dit que je m'appelle Dominique Collin, on n'a encore rien dit. Parce que vous pouvez juste m'identifier comme ma carte d'identité m'identifie, mais vous ne savez pas qui je suis. Je pourrais ajouter toute une série de choses. Je pourrais ajouter que je suis né le 9 mars 1975, dans la bonne ville de Dinan. Et ça n'ajouterait encore pas grand-chose. Sauf que la curiosité de certains et de certaines, en se disant « mais il a quel âge, comme là ?» vient d'être donc résolue et éclaircie. Je pourrais vous dire que je mesure 1m74 et demi le matin et 1m74 le soir. Ça commence. Je vous dirai pas, je vais m'arrêter là pour les mensurations. Les autres, qu'est-ce que ça ajoute ? Rien. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est prendre les choses justement par le côté un petit peu presque dérisoire. En tout cas, ça fait rire. Vous pourriez dire, oui, mais on sait qui il est. Il est renseigné comme frère de Nicolas, dominicain. Donc je suis dominicain. Est-ce que ça dit plus qui je suis ? Non. Parce que si vous connaissez un peu les dominicains, c'est-à-dire le plus grand désordre, vous saurez qu'il n'y a pas tellement de moules dans cette boutique et que donc on devient un peu le dominicain que l'on est ou que l'on souhaite devenir ou que l'on est grâce à ce qui justement fait partie de nos missions. Toutes ces identités, et je vais arrêter de parler de moi, mais c'est pour vous montrer que si vous faites le même travail pour vous-même ou pour les gens que vous connaissez, vous aboutirez à quelque chose qui est quand même assez fou quand on y pense. C'est que de toutes les identités, identifications qui font qu'on peut dire qui on est, reste, si vous voulez, très en deçà de la véritable question « qui suis-je ?» C'est qui mon soi ? Alors le français est une langue qui permet à la fois d'entendre le « moi » et le « soi ». Qui est une drôle de manière de parler de soi, puisque c'est à la troisième personne. Si je dis que le but de la vie, c'est devenir soi-même, vous entendez que le français construit, et il faudrait presque que j'aie un tableau pour vous l'écrire, parce que c'est plus évident à remarquer quand c'est écrit, quand on le voit. Si j'écris soi-même, j'écris soi très d'union ou de séparation avec « même ». Mais le mot « même » en français signifie donc le même que le soi. Donc devenir soi-même, c'est dire « je suis déjà un soi, mais qui doit être un soi ». Donc c'est qu'on n'est pas tout à fait soi-même. Et que donc le trait d'union, c'est une drôle d'affaire parce qu'en fait, ça dit que de fait, je suis appelé à devenir mon soi et en même temps que j'y suis pas encore. Alors, si vous voulez mettre maintenant un peu d'épaisseur là-dedans, que voudrait dire ou signifier être soi ? Ben, être pleinement dans sa liberté, un soi, se détachant parfois des identifications et des identités qui sont autant de masques ou d'illusions. Être soi, c'est être singulièrement soi-même. C'est donc dans la vérité du soi. Et cette vérité est une vérité de liberté. C'est être en pleine, j'allais dire, mesure d'épouser son intelligence, son désir, sa volonté. C'est surtout ne plus se comparer aux autres. Parce que quand on est soi, on est soi. Et l'on se met alors à rencontrer d'autres éventuels soi, ou en tout cas, à les rencontrer en espérant le soi qu'ils sont en termes de promesses. Je reviendrai aussi dans un instant là-dessus, mais je voudrais faire un petit retour. Si la vérité de nos vies, c'est être soi-même, ça dit que je ne suis pas encore tout à fait soi. C'est-à-dire que je ne suis pas encore pleinement qui je suis, et si vous voulez le dire chrétiennement, nous ne sommes pas encore pleinement qui nous sommes au regard de Dieu. Et puisque nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes, nous allons pendant toute notre vie fonctionner pour que nos identités par identification soient autant de manières de continuer quand même, tant bien que mal, à donner le change. Parce que si je ne suis pas pleinement moi-même, ça s'appelle en langage pas psychologique, mais philosophique, ça s'appelle le désespoir. Alors je lui enlève, si vous voulez bien, et si vous voulez bien me suivre jusque-là, j'enlève à ce mot toute idée morbide, c'est-à-dire dépressive. Quand je dis désespoir, ça veut dire que je ne suis pas encore pleinement moi-même. Et que toute ma vie, c'est être confronté à la fois à l'appel à être soi et au fait que plus souvent je préfère mon moi, c'est-à-dire celui sur lequel, par identification, j'ai cru en fait construire quelque chose de solide. Et chacun, d'une certaine manière, est une forme de parvenu. On croit être soi-même et les autres nous le renvoient en disant « Mais oui, mais tu es dominicain, voilà, et ça identifie, c'est fini. Oui, mais tu es une femme, et dans certains milieux, ça suffit à identifier. Tu es wallon, tu es flamand, tu fais ceci, et ça t'identifie. » Et en fait, bien souvent, nous comprenons que ces identités sont trop étriquées, trop justes. Ce sont des manteaux trop courts, malséants. Mais puisque je ne suis pas encore qui je suis appelé à devenir, et que c'est un peu angoissant quand on y pense, eh bien on a tendance à se réfugier, à se barricader dans le moi qui a déjà été en fait construit par identité, identification. Tout ça pour dire quoi ? Que dans la rencontre, soit je rencontre l'autre comme un moi, un ego, et fatalement, dans la rencontre de l'autre, je vais essayer que l'autre soit ramené à moi. Soit, dans la rencontre, rencontrant quelqu'un qui n'est pas encore son soi, mais ne l'étant pas moi-même, nous nous retrouvons sur un appel commun à le devenir, grâce à l'autre. Je vais redéployer ça, puisque c'est, somme toute, c'est le cœur de ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. De sorte qu'ayant dit ce que je viens de vous dire, je pourrais me taire, mais je ne remplirai pas tout à fait le contrat, et l'on pourrait se taire et accueillir cela. Je suis en train donc de distinguer, ou plutôt de mettre en relief et en tension, deux manières d'être. L'une où l'on est un moi, ça ne veut pas nécessairement dire individualiste et égoïste, mais ça veut dire narcissique. En fait, tous les mois sont des mois narcissiques. Oh, il y a des narcissismes qui sont... D'abord, il y a des narcissismes qui sont un peu normaux. Si vous n'avez aucune image de vous un petit peu valorisée, je paye pas cher, non pas de votre peau, mais de votre capacité à être en relation. Donc il y a, si vous voulez, un minimum d'un moi narcissique. C'est-à-dire le moi présentable, celui d'ailleurs qu'on envoie souvent au-devant de nous-mêmes, auprès des autres. C'est-à-dire que quand on vous pose la question « Comment vas-tu ?» vous dites « Ça va ». Le « ça va », c'est le moi présentable. Si vous commencez à dire « ça va pas », c'est déjà un problème parce que ça oblige à quitter déjà un petit peu, à fracturer, si vous voulez, le moi que nous présentons toujours sous son meilleur jour. En fait, il faut comprendre que le moi, c'est moi qui veux être présentable, c'est-à-dire satisfaire. Et ça, c'est du narcissisme, même à dose infime. Mais le problème, c'est que l'on peut monter en narcissisme, comme pour toutes les choses. C'est-à-dire que l'on peut, de plus en plus, être un moi qui, quoi ? Gonfle. Un moi qui gonfle, ça devient, vous me permettrez l'expression, l'enflure du moi. Donc, c'est quoi une enflure? On le devine, c'est un moi qui commence à prendre tellement de place que d'abord, on n'entend que lui. Vous connaissez des personnes, pour ne pas dire qu'on l'est un peu toujours aussi, qui, lorsque vous les rencontrez, lorsque vous échangez avec eux, ne vous font entendre que leur moi. Ah oui, mais donc vous dites, je suis allé hier, j'ai rencontré. Ah mais moi, vous racontez vos vacances. Ah oui, mais moi je suis allé. Oui, mais moi je ferai. Donc les moi je. Quand on y prête l'oreille, c'est plus facile à le faire pour les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que entendre l'omniprésence du moi je des autres, c'est beaucoup plus facile que de s'entendre soi-même être tout le temps. Ah oui, mais moi. Donc ce gonflement du moi qui, à un moment donné, dans une conversation, un échange, prend tellement de place que vous vous rendez compte, mais moi, je n'ai pas eu droit et voix au chapitre. J'étais mangé dernièrement avec quelqu'un, mais c'est peut-être aussi le problème des prêtres, c'est qu'on se dit, mais ils sont là pour nous écouter. Et donc le moi peut prendre toute sa place, tout le temps. À la fin du repas, il ne m'a jamais demandé, et toi tu vas comment? Et mon moi là-dedans? Ce moi qui prend de la place. C'est nous, hein? Donc on fait tous ça. Mais on peut prendre tellement de place qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On est encombré de son moi, et le résultat c'est que quand on est encombré de son moi, on encombre tous les autres. En tout cas, ceux avec qui on est soit en relation de quotidienneté, soit occasionnellement les gens que l'on rencontre. Un moi encombré de lui-même, de son moi, finit par encombrer tous les autres. Et c'est ce qui, vous le savez, est la véritable nuisance dans une relation, par exemple, conjugale, de couple. Quand un des deux, ou quand les deux, sont, à force d'être encombrés de leur moi, prennent tellement de place qu'il n'y a plus de place pour l'autre. Et ça peut exister dans tous les espaces, y compris, et je voudrais en arriver là, même une rencontre motivée pastoralement peut être encore le change qui nous permet de mieux présenter notre moi-je et d'amener subtilement l'autre à moi. Mais comme c'est motivé pastoralement, plus encore, comme c'est motivé spirituellement, parce que je sais que je suis mandaté par le Christ pour aller visiter les malades qui sont ses frères et que l'Église reconnaît cette mission et qu'en plus elle valide parfois par une lettre de mission, simplement par une reconnaissance, ce que je fais, et je viens, dans les visites aux malades, les alourdir un peu plus de mon moi, alors que d'abord, ils n'en ont rien à cirer, et qu'ils ont peut-être déjà un tel encombrement par la maladie, par ce que ça vient susciter, ou plutôt, parce que nous le dirons, peut-être que la maladie, c'est aussi un lieu où le moi étant, pour le coup, lézardé, fragilisé, vulnérable, peut-être que le malade se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, ou qu'est-ce qu'elle me veut, cette personne qui vient m'imposer son moi, alors que peut-être que comme malade et dans la maladie, je découvre enfin peut-être la possibilité d'être soi. Qu'est-ce que nous aurons fait alors? Communiquer l'Évangile, le courage d'exister, la jovialité? Non, nous nous aurons communiqué nous-mêmes au motif d'une mission reçue de l'Église. Mais c'est une illusion, si vous voulez, sincère, qui est difficile. Vous vous rendez bien compte, quand je dis ça, je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit. J'ai appris au fur et à mesure que quand on prêche, quand on donne un enseignement, comme je suis en train de le faire devant vous, on ne prêche que pour sa propre gouverne. On prêche à soi-même, c'est-à-dire au soi. Mais c'est le moi qui est aussi un petit peu pointé du doigt. Parce qu'on peut, dans toute situation chrétienne, ecclésiale, venir imposer aux autres son moi. Donc il n'y a pas de jugement. Et s'il y a un jugement, le jugement il se retourne contre celui qui le dit. Il n'y a pas non plus de volonté de vous convaincre de quoi que ce soit. Il n'y a pas ici de conviction à faire passer. C'est juste un espace, cette journée, pour que par la parole, et surtout en écoutant la parole de celui qui nous invite à faire la vérité, que nous nous mettrons petit à petit à découvrir que quoi ? Que notre moi ne vaut pas tellement la peine, parce qu'il y a un soi qui est une promesse, un appel, qui est bien plus beau, bien plus joyeux, bien plus communicatif d'existence que le moi sur lequel on veut se racrapoter, sur lequel on adhère parce qu'on a peur du soi qu'on n'est pas encore et on se dit « tant qu'à faire, autant être le moi que je crois être ». Mais ce moi, en fait, soit par enflure et gonflement, prend tellement de place qu'on devient soi-même encombré par soi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. À certains moments de la vie, on se rend compte qu'on est trop encombré de soi. Et puis peut-être que les autres nous font alors gentiment savoir qu'on les encombre un peu trop de notre propre moi et qu'ils en ont aussi un peu marre. Et il y a des gens qui vont prendre alors devant nous la tangente, qui vont s'échapper. Parce que ce qu'on amène, c'est toujours ce moi, cet ego. Il y a un soi qui est un appel et une promesse. Et c'est ça, et c'est ce soi qui est, j'oserais dire, le véritable contenu de l'Évangile. Vous en voulez la preuve ? Je suis toujours dans les... 5 minutes donc. Juste un indice. Et nous reprendrons tout ça gentiment. Au début de l'évangile de Marc. Je prends Marc parce que c'est mon préféré. Je suis martien. Avec un C. Donc, dans l'évangile de Marc, vous savez, il n'y a pas le récit de l'enfance. Nous arrivons à la prédication, à la proclamation de Jean-Baptiste et au baptême de Jésus. Qu'est-ce qui est à entendre ? Eh bien, c'est du coup la voix qui se fait entendre et qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon plaisir. » Eh bien, c'est cette parole que le Christ entend mais qu'il doit faire sienne qui est la parole que nous sommes amenés à entendre pour nous-mêmes et qui est peut-être la parole la plus difficile à vraiment accueillir complètement dans nos vies. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets mon plaisir. C'est une parole de pure grâce, inconditionnée. Elle dit, tu es qui tu es et il est bon que tu existes comme tu existes. Il est bon que tu existes. Je ne peux pas mieux dire le cœur de l'évangile que de dire que l'évangile, c'est quand on communique à quelqu'un « Il est bon que tu existes ». Dans la bouche du Père, c'est dire « Il est bon que tu existes comme fils ». Dans la bouche du Père qui nous dit, et vous avez ça dans l'épître de Jacques, de sa propre bienveillance, il nous a engendrés par sa parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, comme les prémices de ses créatures. Jacques 1, chapitre 1, verset 18. Nous avons été engendrés par la parole de vérité qui fait de nous des fils et des filles, qui dit « Il est bon que tu existes ». Entendre ça dans sa vie, voilà notre mission, voilà notre travail. Déjà pour nous-mêmes, permettre aux malades, à la personne souffrante, de pouvoir entendre au moins possiblement cette offre inconditionnée de justification de l'existence en disant « il est bon que tu existes ». Voilà, voilà l'Évangile en acte, mis en œuvre. Mais vous le savez d'expérience, il est très très difficile d'accueillir pour soi-même une parole qui dit « il est bon que tu existes ». Parce que nous pensons parfois que nous ne méritons pas vraiment d'exister. Parfois nous traînons des dettes, parfois nous traînons des blessures qui font qu'on a une piètre image du soi que l'on pourrait devenir. Parfois jusqu'à aller jusqu'à l'anéantissement, l'autodestruction. Que quand on se regarde, on n'est pas toujours très fier. Qu'il y a la honte, je dis bien le mot honte, qui parfois nous saisit. Parce qu'on découvre, plus on veut être soi, que nous avons des démons en nous. On a, si vous voulez, une aspiration au néant. Tout ça, nous le recouvrons par le moi, qui donne l'impression que nous sommes des gens bien, en plus si nous sommes chrétiens. Et pourtant, il y a en nous une angoisse, parfois une honte et une difficulté à accueillir. Il est bon que tu existes. Et comme nous n'entendons pas bien ça, nous demandons sans arrêt aux autres de nous justifier, nous, de justifier notre propre moi. Et on peut aller au-devant d'un malade ou de n'importe qui juste pour lui demander « Rassure-moi quant au moi que je crois être ». Et l'on peut donc trouver, si vous voulez, dans le travail pastoral, une sorte de justification du moi. Alors, et ce sera pour tout à l'heure, c'est peut-être tout autre chose. C'est reconnaître, grâce à l'autre, en présence de l'autre, que le soi reste un appel et une promesse, et que l'on a justement besoin de la rencontre de l'autre pour réentendre ensemble, à deux, dans l'entre-deux, dans l'entretien, qu'il y a un soi qui est une promesse pour chacun des deux. Si je voulais terminer et dire ainsi, dans la rencontre, dans la visite du malade, on ne lui apporte rien si vous entendez par rien le fait qu'on ne lui apporte jamais si l'on veut bien faire son propre moi. Commencez par ne pas apporter son moi à celui ou à celle que l'on visite, c'est déjà la grâce de la visite, la grâce d'être soi. Je vous remercie. Comme ça, je bois un coup.